Livre 5, Bon grain et ivraie. Chapitre 1er. Au fond rouge. Le salon de famille était une longue chambre, ayant une fenêtre à chaque extrémité. L'une avait vue sur les terres des bords de la Ripple jusqu'aux rives de la Flosse. L'autre donnait sur la cour du moulin. Maggie, assise un jour avec son ouvrage près de cette fenêtre, vit M. Wakem entrer, comme à l'ordinaire, sur son beau cheval noir, mais pas seul cette fois. Quelqu'un l'accompagnait, enveloppé dans un manteau et monté sur un joli poney. Maggie eut à peine le temps de penser que Philippe était de retour, qu'ils étaient devant la fenêtre. Philippe la salua, et Wakem, saisissant du coin de l'œil ce mouvement, se retourna vivement pour les regarder. Maggie s'éloigna à la hâte et emporta son ouvrage, car M. Wakem entrait quelquefois pour inspecter le livre, et Maggie sentait que son entrevue avec Philippe serait dépourvue de tout plaisir en présence de témoins. Quelques jours, peut-être, elle pourrait le voir et lui serrer la main. Elle pourrait lui dire qu'elle se rappelait sa bonté pour Tom et les choses dont ils avaient anciennement parlé, quoiqu'ils ne pussent plus jamais devenir amis. Maggie n'était nullement agitée en revoyant Philippe. Elle lui conservait une reconnaissance enfantine et éprouvait une bienveillante pitié pour lui. Elle n'avait point oublié ses talents, et pendant les premières semaines de sa solitude, elle s'était constamment souvenue de lui comme s'étant montré bon pour elle, désirant souvent qu'il fût son frère et son instituteur, comme il l'avait naguère souhaité dans leurs entretiens. Mais elle avait banni ce désir, ainsi que d'autres rêves tendant à l'accomplissement de sa propre volonté. Elle pensait d'ailleurs que Philippe pouvait avoir changé pendant son séjour à l'étranger, et que peut-être il ne souhaitait pas maintenant qu'elle lui parlât. Son visage lui avait paru très peu changé. Il avait légèrement grandi, mais il lui fit l'effet d'une copie un peu plus masculine de l'enfant pâle aux traits délicats, avec les yeux gris et les cheveux bruns soyeux et ondulés qu'elle avait connus naguère. Le souvenir de sa difformité éveillait toujours la commisération de Maggie, qui sentit qu'elle serait réellement bien aise de lui dire quelques mots. Il se pouvait qu'il fût encore mélancolique, comme elle l'avait connu, et qu'il fût satisfait d'un regard de bienveillance. Elle aurait voulu savoir s'il se rappelait combien il aimait à regarder ses yeux à elle. À cette pensée, Maggie jeta un coup d'œil vers le miroir carré, condamné à rester suspendu et retourné contre le mur, et elle se leva à moitié de sa chaise pour aller se mirer. Mais aussitôt elle s'arrêta et reprit son ouvrage, essayant de réprimer ses désirs naissants, en forçant sa mémoire à retrouver des fragments d'hymnes, jusqu'à ce qu'elle vît que Philippe et son père s'en retournaient le long du chemin et qu'elle pouvait descendre. Le mois de juin était maintenant très avancé, et Maggie se sentait disposée à allonger ses promenades, le seul plaisir qu'elle s'accorda. Mais ce jour-là et le suivant, elle fut si occupée d'un ouvrage qu'il fallait terminer, qu'elle ne put franchir les portes de la cour et dut satisfaire son besoin de grand air en s'asseyant devant la maison. Une de ses promenades favorites, lorsqu'elle n'était pas obligée d'aller à St. Ogg's, était un endroit situé derrière ce qu'on appelait la colline, insignifiante élévation de terrain couronnée d'arbres, placée le long de la route qui passait près des portes du moulin de Dorlcote. Je l'appelle insignifiante parce que cette élévation n'était guère plus qu'un haut talus. Mais il y a des moments où un simple accident de terrain peut jouer un rôle important, et c'est pour cela que je vous prie de vous représenter ce monticule couronné d'arbres, formant un mur accidenté d'un quart de mille environ, le long du côté gauche du moulin de Dorlcote et des champs s'étendant jusqu'à la Ripple murmurante. À l'endroit où la crête redescendait au niveau des terres, aboutissait un chemin qui, par un détour, conduisait de l'autre côté de la colline. Là, le sol devenait très inégal et coupé capricieusement de creux et de monticules, par suite d'anciens travaux d'une carrière de pierre épuisée, abandonnée même depuis si longtemps que tous ces mouvements du terrain étaient recouverts de broussailles et d'arbres et tapissés d'un gazon que quelques brebis avaient le soin de tondre très ras. Au jour de son enfance, Maggie avait pour cet endroit, appelé les Fonds Rouges, une craintive admiration. et avait besoin de toute sa confiance dans le courage de Tom pour consentir à y faire une excursion, croyant chaque excavation hantée par des brigands ou par des bêtes féroces. Mais maintenant il lui offrait le charme que tout terrain accidenté, imitant des rocs et des ravins, possède pour les yeux qui se reposent habituellement sur une plaine uniforme. Surtout lorsqu'elle pouvait, en été, s'asseoir sur le gazon de quelque talus, à l'ombre d'un frêne aux branches étalées, s'élançant obliquement du sol au-dessus d'elle. Là, elle écoutait le bourdonnement des insectes, semblable à de petites cloches au milieu du silence. Elle regardait les rayons du soleil perçant à travers les buissons éloignés, comme s'il voulait poursuivre et recueillir le bleu du ciel dispersé sur les jacinthes sauvages. Dans ce beau mois de juin, les églantiers, dans toute leur gloire, invitèrent surtout Maggie à diriger sa promenade vers les fonds rouges, le premier jour où elle fut libre d'errer à sa fantaisie. Plaisir qu'elle appréciait tellement que quelquefois, dans ses ardeurs de renoncement, elle pensa qu'elle devrait plus souvent s'en priver. Vous pouvez la voir marchant le long de son chemin favori, qui tourne et entre dans les fonds rouges, par un passage étroit, au travers d'un groupe de pins d'Écosse. Sa grande taille et sa robe verdâtre se dessinent sous un châle héréditaire, fait d'une espèce de filet à large maille de soie noire. Et maintenant qu'elle est sûre de n'être pas vue, elle ôte son chapeau et l'attache à son bras. On croirait certainement qu'elle a plus de 17 ans, peut-être à cause de la calme tristesse de son regard, qui semble dépourvu de tout désir ou agitation. Peut-être parce que le développement de son buste présente l'apparence d'une précocité féminine. La jeunesse et la force ont bien résisté chez elle aux difficultés imprévues ou volontaires de son sort, et les nuits qu'elle a comme pénitence, passées sur le plancher, n'ont pas laissé de traces visibles. Les yeux sont limpides, les joues brunes, fermes et arrondies, les lèvres pleines et rouges. Avec son coloris foncé et sa couronne de cheveux noirs surmontant sa haute stature, elle semble avoir une sorte de parenté avec ses grands pins d'Écosse sur lesquels elle lève les yeux avec un air d'affection. Cependant, on éprouve un sentiment de malaise en la regardant, car on reconnaît des éléments opposés entre lesquels une lutte terrible est imminente. On y remarque une expression fortement contenue, telle qu'on la trouve souvent sur des visages moins jeunes, à coiffure sérieuse, expression en contraste avec l'expansion de la jeunesse que l'on s'attend à voir se dévoiler soudain par un regard passionné qui dissipera toute cette quiétude, de même qu'un feu apaisé brille de nouveau quand tout paraissait éteint. Maggie, du reste, n'est point inquiète dans ce moment. Elle jouit avec calme de l'air libre en regardant les vieux pins et pense que ces bouts de branches brisées sont les souvenirs d'orages passés qui ont fait grandir les tiges rougeâtres. Mais tandis que ses yeux sont dirigés en haut, elle a le sentiment vague qu'une ombre en mouvement, accusée par le soleil du soir, passe sur le chemin devant elle. Et baissant les yeux, elle fait un mouvement de surprise à la vue de Philip Wakeham, qui, après avoir ôté son chapeau, rougit fortement et s'avance en lui tendant la main. Maggie aussi rougit. Mais cet étonnement fait bientôt place au plaisir. Elle étend la main et regarde cet être disgracié avec des yeux pleins de franchise qui n'expriment que le souvenir de ses sentiments d'enfance, souvenir toujours intense en elle. Elle parle la première. « Vous m'avez surprise, » dit-elle en souriant légèrement. « Je ne vois jamais personne ici. Comment êtes-vous venu vous y promener? Serait-ce pour m'y rencontrer ?» Il était impossible de ne pas comprendre qu'elle se considérait toujours comme une enfant. « Oui, » dit Philippe, encore embarrassé. « Je désirais beaucoup vous parler. J'ai attendu longtemps hier sur la colline près de votre maison pour voir si vous sortiriez. Mais vous n'êtes point venu. Puis j'ai attendu de nouveau aujourd'hui, et quand j'ai vu la route que vous preniez, je vous ai suivi des yeux et j'ai descendu la colline par ce côté-ci. J'espère que cela ne vous déplaira pas. Non, dit Maggie, avec une sérieuse simplicité, et continuant sa route, comme désirant que Philippe l'accompagnât. Je suis très contente que vous soyez venu, car je souhaitais beaucoup avoir une occasion de vous parler. Je n'ai jamais oublié combien vous avez été bon pour Tom et pour moi, il y a longtemps. mais je n'étais pas sûr que vous vous souvinssiez aussi bien de nous. Tom et moi avons eu beaucoup de chagrin depuis, et je crois que cela donne plus d'importance aux choses qui se sont passées auparavant. Je ne puis croire que vous ayez autant pensé à moi que moi à vous, dit Philip timidement. Savez-vous qu'après votre départ, j'ai fait un portrait de vous, tel que vous me parûtes dans la classe, le matin que vous me dites que vous ne m'oublieriez pas. Philip sortit de sa poche un écrin renfermant une miniature, et Maggie se retrouva telle qu'autrefois, avec ses longues mèches noires pendant derrière ses oreilles, appuyée sur la table et regardant dans l'espace avec des yeux étonnés et rêveurs. « Oh, vraiment !» dit Maggie, souriant et rougissant de plaisir. « Quelle singulière petite fille j'étais !»« Je me rappelle bien que j'avais les cheveux ainsi, et cette robe rose. J'étais vraiment comme une bohémienne. Je pense en avoir encore l'air, » ajouta-t-elle bientôt. « Suis-je comme vous vous y attendiez ?» Ces paroles auraient pu être celles d'une coquette. Mais ce qui ne l'était pas, c'est le regard ouvert et brillant de Maggie tourné sur Philippe. Elle désirait sincèrement qu'il aimât son visage tel qu'il était maintenant. Mais c'était un simple retour de son plaisir inné à être admiré et aimé. Philippe rencontra ce regard et la contempla un long moment en silence, avant de dire tranquillement « Non, Maggie ». Le visage de la jeune fille s'obscurcit un peu, et il y eut un léger tremblement des lèvres. Ses paupières s'abaissèrent légèrement, mais elle ne détourna pas la tête. Philippe continua de la regarder, puis il dit avec calme « Vous êtes beaucoup plus belle que je ne l'avais supposé. »« Vraiment ?» dit Maggie, le plaisir revenant avec des couleurs plus vives. Elle détourna de lui son visage et fit quelques pas, regardant droit devant elle en silence, comme si elle cherchait à se faire à cette nouvelle idée. Les jeunes filles sont si habituées à regarder la parure comme la base de la vanité que Maggie, en s'abstenant de faire usage de son miroir, avait pensé davantage à renoncer à tout soin de s'embellir qu'à ne plus regarder son visage. Se comparant à de jeunes dames élégantes et riches, il ne lui était pas entré dans l'esprit qu'elle pût produire quelque effet par sa seule figure. Philippe paraissait aimer ce silence. Il marchait à côté d'elle en la contemplant, comme si cette vue lui suffisait entièrement. Ils avaient quitté les sapins et se trouvaient maintenant dans un creux vert, presque entouré d'un amphithéâtre d'églantiers aux roses pâles. Mais la lumière avait cessé de les faire briller, et le visage de Maggie avait perdu de son éclat. Elle s'arrêta quand ils furent dans ce creux, et, regardant de nouveau Philippe, lui dit d'une voix sérieuse et triste, « J'aurais aimé que nous puissions être amis. Je veux dire, si cela eût été bon et convenable pour nous. Mais c'est là l'épreuve qui se reproduit sans cesse pour moi. Je ne puis conserver aucune des choses que j'aimais étant petite. Les vieux livres sont loin, Tom est si différent, et mon père, c'est comme la mort. Je dois me séparer de tout ce qui m'intéressait quand j'étais enfant. Et il faut que je me sépare de vous. Nous ne devons jamais faire attention l'un à l'autre à l'avenir. C'est pour cela que je désirais vous parler. Je voulais vous faire savoir que Tom et moi ne pouvons agir comme nous le voudrions à l'égard de certaines choses, et que si je me conduis comme si j'avais oublié tout ce qui vous concerne, ce n'est ni par envie, ni par fierté, ni par aucun autre sentiment analogue. » Maggie continua à parler avec une aimable confiance, devenant de plus en plus triste, et ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. L'expression de découragement qui augmentait sur la figure de Philippe lui donnait une forte ressemblance avec celle qu'il avait étant enfant, et faisait de son infirmité un motif d'intérêt plus vif pour la pitié de Maggie. « Je vois, je sais tout ce que vous voulez dire, » dit-il d'une voix affaiblie par la tristesse. « Je sais ce qui doit nous tenir éloignés mutuellement. Mais il n'est pas juste, Maggie, ne soyez pas fâchée contre moi. Je suis si habitué à vous appeler ainsi dans mes pensées. Il n'est pas juste de tout sacrifier aux sentiments déraisonnables des autres. Je renoncerai à beaucoup de choses pour mon père, mais je ne voudrais pas renoncer à une amitié, ni à un attachement d'aucune sorte, pour obéir à un désir de sa part que je ne reconnaîtrai pas pour juste. « Je ne sais, » dit Maggie en hésitant. « Souvent, quand j'ai été fâchée et mécontente, il me semblait que je n'étais point obligée de renoncer à quelque chose. Et mes pensées sont allées jusqu'à me faire croire que je pouvais me soustraire à tous mes devoirs. Mais il n'en est jamais résulté aucun bien. C'était un mauvais état d'esprit. Je suis parfaitement sûr que, quoi que je puisse faire, je désirerais plus tard ne l'avoir jamais fait, même sans en retirer aucun avantage pour moi, plutôt que d'avoir le regret d'augmenter la tristesse de mon père. Mais cela rendrait-il sa vie plus triste, si nous pouvions nous voir quelquefois ? Dit Philippe. Il allait ajouter quelque chose de plus, mais il se contint. Oh, je suis sûr que cela lui déplairait. Ne me demandez pas pourquoi, ni rien d'autre à cet égard, dit Maggie d'un ton désespéré. Mon père est si violent sur certains sujets. Il n'est pas du tout heureux. Moi non plus, dit Philippe impétueusement. Je ne suis pas heureux. Pourquoi ? Dit Maggie avec douceur. Du moins, je ne devrais pas vous le demander, mais j'en suis bien, bien fâché. Philippe se remit à marcher comme s'il n'avait pas la patience de rester tranquille plus longtemps. Et tous deux sortirent du creux, errant en silence au milieu des arbres et des buissons. Après ces derniers mots de Philippe, Maggie n'aurait pu insister sur leur séparation immédiate. « J'ai été beaucoup plus heureuse, dit-elle enfin timidement, depuis que j'ai cessé de désirer ce qui est facile et agréable, et d'être mécontente de ce que je ne pouvais faire par ma propre volonté. Notre vie est déterminée d'avance pour nous, et cela donne plus de liberté à notre esprit quand nous renonçons à vouloir et ne pensons plus qu'à supporter ce qui nous est imposé et à faire ce qui nous est assigné. Mais je ne puis renoncer à désirer, dit Philippe avec impatience. Il me semble que nous ne devons jamais renoncer à aspirer ou à ambitionner tant que nous sommes vraiment en vie. Il y a des choses qui sont si belles et si bonnes que nous devons en être affamés. Comment pourrions-nous être jamais satisfaits sans elles, tant que la vie est encore en nous ? Les beaux tableaux font mes délices. Je désirerais ardemment être capable d'en peindre de semblables. Je fais effort sur effort, et je ne puis produire ce que je souhaite. C'est une douleur pour moi, et cela en sera toujours une, jusqu'à ce que mes facultés aient perdu leur sensibilité, comme la vue perd la sienne avec l'âge. Que de choses pour lesquelles je languis. Ici, Philippe hésita un peu et dit ensuite, « Des choses que d'autres hommes possèdent et qui me seront toujours refusées. Il n'y aura rien dans ma vie de grand et de beau. J'aimerais mieux n'avoir pas vécu. » « Oh, Philippe, » dit Maggie, « j'aimerais que vous ne parliez pas ainsi. » Mais son cœur commença à ressentir pour elle-même quelque chose de semblable au mécontentement de Philippe. « Eh bien, alors, » dit-il en se tournant vivement et fixant ses yeux gris sur elle d'un air suppliant, « je serais content de vivre si je pouvais vous voir quelquefois. » Puis, arrêté par la frayeur qu'il voyait se peindre sur cette figure, il détourna les yeux et reprit avec plus de calme, « Je n'ai point d'amis auxquels je puisse tout dire, personne qui tienne réellement à moi. Et si je pouvais seulement vous voir de temps en temps, si vous consentiez à me parler quelquefois, à me montrer que vous vous inquiétez un peu de moi, et que nous pouvons être amis de cœur et nous soutenir mutuellement, alors je pourrais en venir à être heureux de vivre. » Mais comment pourrais-je vous voir, Philippe ? Dit Maggie d'une voix hésitante. Si elle pouvait vraiment lui faire du bien, ce serait bien dur de lui dire adieu aujourd'hui et de ne plus lui parler jamais. C'était un nouvel intérêt dans la monotonie de sa vie. Il lui aurait été bien plus facile de s'y refuser avant de l'avoir revue. Si vous vouliez me permettre de vous rencontrer ici, répondit Philippe, ne fût-ce qu'une ou deux fois par mois, je serais satisfait. Cela ne pourrait nuire au bonheur de personne et mettrait de la douceur dans ma vie. En outre, continua-t-il avec toute l'ingénieuse naïveté de l'amour à 21 ans, s'il y a quelque discorde entre ceux qui nous tiennent de près, ne devrions-nous pas essayer de la dissiper par notre amitié à nous, je veux dire par notre double influence? Nous pourrions amener la guérison des blessures faites dans le passé, si je savais tout ce qui s'y rattache. Et je ne crois pas qu'il y ait aucune inimitié dans l'esprit de mon père à moi. Je crois qu'il a prouvé le contraire. » Maggie secoua lentement la tête et garda le silence dans le conflit de ses pensées. Elle paraissait admettre l'idée que voir Philippe de temps en temps et conserver avec lui une relation d'amitié était une chose non seulement innocente, mais bonne. Peut-être pourrait-elle réellement l'aider à trouver le contentement, comme elle-même l'avait trouvé. La voix qui parlait ainsi était une douce musique à l'oreille de Maggie. Mais au travers perçait aussi le pressant et monotone avertissement d'une autre voix à laquelle elle avait appris à obéir. L'avertissement que de telles entrevues impliquaient le secret. Nécessitait l'obligation de faire quelque chose qu'elle serait effrayée que l'on découvrît. Une chose qui, si on venait à la savoir, serait pour les siens une cause de colère et de douleur. Et que le consentement à ce qui était si près de la duplicité serait comme une corruption de son esprit. Cependant, la douce voix murmurait de nouveau avec plus de force, comme une harmonie rapprochée par le retour de la brise, et cherchait à la persuader que le tort venait entièrement des fautes et des faiblesses des autres, et que c'était comme si quelqu'un se sacrifiait avec légèreté pour le mal fait par autrui. Il était bien cruel pour Philippe de devoir être repoussé à cause d'un désir de vengeance injustifiable contre son père, ce pauvre Philippe dont quelques personnes se détournaient pour le seul fait de sa difformité. L'idée qu'il pût être amoureux d'elle et que leur entrevue pût être désapprouvée sous ce rapport ne s'était point présentée à elle, et Philippe reconnaissait clairement en elle l'absence de cette pensée. Il en eut une certaine douleur, quoique cela pût faciliter le succès de sa demande. Il y avait pour lui de l'amertume à s'avouer qu'il retrouvait Maggie presque aussi franche et peu retenue à son égard que lorsqu'elle n'était qu'une enfant. « Je ne puis dire ni oui ni non, » dit-elle enfin, en se tournant et reprenant le chemin par lequel elle était venue. « Il faut attendre. Dans la crainte de prendre une fausse détermination, je dois chercher une direction. » « Puis-je revenir alors, demain ou le jour suivant, ou la semaine prochaine ?»« Je pense que je ferai mieux d'écrire, » dit Maggie, en hésitant de nouveau. « Je vais quelquefois à Saint-Ogs, et je puis mettre une lettre à la poste. » « Oh non, » dit Philippe avec vivacité, « ce ne serait pas si bien. Mon père pourrait voir la lettre. Il n'a aucune inimitié, je crois, mais il voit les choses d'une autre manière que moi. Il met beaucoup d'importance à la richesse et à sa position. Je vous en prie, laissez-moi revenir ici une autre fois. Dites-moi quand cela sera, ou, si vous ne pouvez le dire, je viendrai aussi souvent que je le pourrai, jusqu'à ce que je vous voie. » « Je crois alors qu'il en sera ainsi, » dit Maggie, « car je ne puis être tout à fait sûr de venir à un moment déterminé. » Maggie sentit un grand soulagement d'avoir ajourné sa décision. Elle était libre maintenant de jouir de ces minutes de douce camaraderie. Elle pensa même pouvoir les prolonger un peu, puisque la première fois qu'ils se rencontreraient, elle devait faire de la peine à Philippe en lui annonçant sa décision. « Je ne puis m'empêcher de penser, » dit-elle en le regardant avec un sourire, après quelques minutes de silence, « comme il est singulier que nous nous soyons retrouvés et que nous ayons causé ensemble, justement comme si ce n'était qu'hier que nous nous soyons quittés à Lorton. Et cependant, nous devons tous les deux avoir bien changé pendant ces 5 ans. Je crois qu'il y a 5 ans. Comment se fait-il que vous ayez cru un instant que j'étais la même Maggie ? Je n'étais pas aussi sûr que vous fussiez resté le même. Je sais que vous êtes très instruit et que vous devez avoir vu et appris une infinité de choses qui ornent votre esprit. Je n'étais pas parfaitement sûr que vous voulussiez vous souvenir de moi à présent. Je n'ai jamais eu le moindre doute que je ne dusse vous retrouver la même qu'autrefois quand je pourrais vous voir, dit Philippe. Je veux dire la même en tout ce qui me faisait vous aimer mieux qu'aucune autre personne. Je n'ai pas besoin d'expliquer cela. Je ne crois pas qu'aucun des effets qui agissent le plus puissamment sur notre nature puisse jamais s'expliquer. Nous ne pouvons découvrir ni le procédé par lequel ils sont produits, ni leur mode d'action sur nous. Le plus grand des peintres n'a peint qu'une seule fois un enfant mystérieusement divin. Il n'aurait pu dire comment il l'avait fait, et nous ne pouvons dire pourquoi nous sentons qu'il est divin. Je crois qu'il y a des ressources renfermées dans notre nature humaine, dont notre intelligence ne peut faire aucun inventaire complet. Certains accords de musique m'impressionnent étrangement. Je ne puis les entendre sans qu'ils changent tout l'état de mon esprit pour quelque temps. Et si cet effet devait durer, je pourrais être capable d'actions héroïques. Ah, je sais ce que vous voulez dire à l'égard de la musique. Je le sens ainsi, dit Maggie, en joignant les mains avec son ancienne impétuosité. Au moins, ajouta-t-elle, d'un ton attristé, je sentais ainsi quand j'entendais de la musique. Je n'en entends plus à présent, si ce n'est l'orgue à l'église. Et cela vous manque, Maggie, dit Philippe, la regardant avec une pitié affectueuse. Ah, vous ne pouvez guère jouir de votre triste vie, de ce qui est vraiment beau. Avez-vous beaucoup de livres? Vous les aimiez tant lorsque vous étiez petite fille. Ils étaient revenus à l'endroit où croissaient les églantiers, et tous deux s'arrêtèrent sous le charme de la féerique lumière du soir, reflétée par ses pâles touffes roses. Non, j'ai renoncé aux livres, dit Maggie tranquillement, excepté à un petit, très petit nombre. Philippe avait déjà sorti de sa poche un très petit volume, et dit en regardant le dos, « Ah, c'est le second volume, je vois, sinon vous auriez pu aimer à l'emporter chez vous. Je l'ai mis dans ma poche parce que j'en étudiais une scène pour un tableau. » Maggie en avait aussi regardé le titre. Il raviva une ancienne impression avec une force insurmontable. « Le pirate, » dit-elle en prenant le livre des mains de Philippe. « Oh, je l'ai commencé une fois. J'en suis resté à l'endroit où Mina se promène avec Cleveland, et je n'ai jamais pu lire le reste. » Je l'ai continué dans ma propre tête, et j'ai imaginé plusieurs fins, mais toutes étaient malheureuses. Je n'ai jamais pu, d'après le commencement, composer une fin heureuse. Pauvre Mina! Pendant longtemps, je n'ai pu détourner mon esprit des îles Shetland. Il me semblait sentir sur moi souffler le vent de la mer écumante. Maggie parlait rapidement et ses yeux brillaient. « Emportez ce volume, » dit Philippe, en la regardant avec délice. « Je n'en ai pas besoin maintenant. Je ferai plutôt une peinture de vous, au milieu des pins d'Écosse et des ombres allongées du soir. » Maggie n'avait pas entendu un mot de ce qu'il disait. Elle était absorbée par la page où elle avait ouvert le livre. Mais tout d'un coup, elle le ferma et le rendit à Philippe en secouant la tête avec un mouvement d'effroi, comme pour dire à des visions flottantes « Arrière, tentatrice !»« Gardez-le, Maggie, » dit Philippe avec instance. « Il vous fera plaisir. »« Non, je vous remercie, » répondit-elle en le repoussant de la main. « Il me ferait de nouveau aimer le monde comme je le faisais. Il me ferait désirer de voir et de savoir beaucoup de choses. Il me ferait soupirer après une vie plus remplie. » « Mais vous ne serez pas toujours renfermé dans votre cercle étroit. Pourquoi affameriez-vous ainsi votre esprit? C'est un ascétisme inintelligent. Je n'aime pas vous y voir persister, Maggie. La poésie, l'art, la science sont purs et sacrés. Non pas pour moi, répéta Maggie en pressant le pas. J'en voudrais trop. J'attendrai. Cette vie ne durera pas longtemps. » « Ne vous éloignez pas de moi avec cette hâte, sans me dire adieu, Maggie, » dit Philippe, comme ils atteignaient le groupe de pins d'Écosse et qu'elle continuait encore à marcher sans parler. « Je ne dois pas aller plus loin, je pense, n'est-ce pas ?»« Oh non, j'oubliais. Adieu, » dit Maggie, s'arrêtant et lui tendant la main. Ce mouvement ramena fortement ses pensées vers Philippe, et après être resté quelques moments à se regarder en silence, les mains pressées, elle dit en retirant la sienne, « Je vous suis bien reconnaissante d'avoir songé à moi pendant toutes ces années. Il est bien doux de voir des gens qui nous aiment. Quelle belle et étonnante chose, cela me paraît, que Dieu ait fait votre cœur de telle façon que vous puissiez vous occuper d'une singulière petite fille que vous n'avez connue que pendant quelques semaines. Je me rappelle vous avoir dit que je croyais que vous teniez à moi, plus que Tom. Ah, Maggie, dit Philippe, presque avec inquiétude, vous ne m'aimerez jamais autant que vous aimez votre frère. Peut-être que non, dit Maggie simplement. Mais aussi, savez-vous, le plus ancien souvenir que j'ai dans ma vie, c'est de m'être promené au bord de la flosse avec Tom qui me tenait par la main. Toute autre chose avant cela est obscure pour moi. mais je ne vous oublierai jamais, quoique nous devions rester séparés. Ne dites pas cela à Maggie. Si j'ai gardé l'image de cette petite fille dans mon esprit pendant 5 ans, elle me doit bien quelque chose et ne devrait pas se retirer entièrement de moi. Ah, si j'étais libre, dit Maggie. Mais je ne le suis pas. Je dois me soumettre. Elle hésita un moment, puis ajouta, et je voulais vous dire qu'il serait bien de ne pas remarquer mon frère autrement que pour le saluer. Il m'a défendu une fois de jamais vous parler, et il ne change pas d'idée. Oh, vraiment, le soleil est couché. Je suis restée trop longtemps absente. Adieu. Elle lui tendit encore une fois la main. Je viendrai aussi souvent que je pourrai, jusqu'à ce que je vous voie encore, Maggie. Ayez quelque compassion de moi aussi bien que des autres. Oui, oui, j'en aurai, dit Maggie en s'éloignant à la hâte et disparaissant bientôt derrière les derniers pins, tandis que le regard de Philippe restait encore quelques minutes fixé dans cette direction, comme s'il la voyait toujours. Maggie retourna chez elle avec un commencement de combat intérieur. Philippe ne resta chez lui que pour se souvenir et espérer. Vous aurez de la peine, peut-être, à ne pas le blâmer sévèrement. Il était de 4 ou 5 ans plus âgé qu'elle et avait une pleine connaissance de ce qu'il éprouvait pour elle, ce qui devait lui faire comprendre que le caractère des entrevues qu'il espérait aurait aux yeux d'autres personnes une apparence blâmable. Mais ne le croyez pas capable d'un grossier égoïsme, ni qu'il pût être heureux sans l'espérance de mettre quelque joie dans la vie de Maggie. Ce désir le dominait plus que tout autre. Il pouvait lui offrir de la sympathie. Il pouvait lui être de quelque secours. Il n'y avait pas le plus léger indice d'amour pour lui dans sa manière d'être à elle, qui ne différait pas de la douce tendresse enfantine qu'elle lui avait montrée à l'âge de 12 ans. Peut-être ne l'aimerait-elle jamais. Peut-être même aucune femme ne pourrait jamais l'aimer. Eh bien alors, il le supporterait. Il aurait au moins le bonheur de la voir, de se sentir rapproché d'elle. Et il conservait passionnément l'espoir qu'elle pût l'aimer un jour. Peut-être ce sentiment viendrait-il si elle pouvait parvenir à l'envelopper lui aussi dans cette sympathie aimante à laquelle elle était si vivement portée. Si quelque femme pouvait l'aimer, certainement c'était Maggie. Il y avait en elle une si grande richesse d'amour que personne ne réclamait. Puis quel dommage qu'une intelligence comme la sienne pût se flétrir à l'entrée de la vie, comme un jeune arbre de la forêt, manquant de la lumière et de l'espace où il avait été destiné à prospérer. Ne pourrait-il pas l'en empêcher, en la persuadant de renoncer à son système de privation? Il serait son ange gardien. Il ferait tout. Il supporterait tout pour elle, excepté de ne pas la voir.